L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Rappelez-vous, en novembre, nous avions évoqué sur cette antenne une opération de collectage menée par la commune du Fou avec l'aide de l'association Bretagne Culture Diversité. C'est une association dont la vocation est justement de maintenir vivante notre culture locale au sens très large. Il y a bien sûr le matériel, des mégalithes aux chapelles, en passant par les maisons anciennes comme celle dont le Fou est très riche. Mais cette fois, il s'agissait bien d'aller au-delà et d'identifier ce qui fait patrimoine immatériel, culturel, vivant pour les faouistes. Nous allons donc tenter de répondre à cette question avec, pour Bretagne Culture Diversité, Elena Tataruche, qui est chargée de mission patrimoine culturel immatériel, et Angelina Trappi, qui est en stage master de tourisme et développement. Et pour la commune du Fou, le maire, qui a longtemps été adjoint au patrimoine, justement, Ludovic Lassagne. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le projet, même si je l'ai fait vite fait, et le contexte dans les missions, par rapport aux missions de Bretagne Culture Diversité, notamment? Donc, je ne sais pas.
Oui, je peux commencer, si ça te va, Ludovic. Oui. Oui, donc voilà, Bretagne Culture Diversité est une association qui a été créée en 2012 et puis qui vise à diffuser, valoriser le savoir, matière culturelle de Bretagne. Et cette association a dans ses missions la réalisation d'un inventaire permanent du patrimoine culturel immatériel, donc patrimoine vivant breton. Alors la genèse du projet, on dirait que ça commence, c'est la rencontre entre deux associations. Donc Bretagne Culture Diversité, qui développe depuis le début un accompagnement auprès des associations, collectivités sur le patrimoine vivant, et l'association des petites cités de caractère de Bretagne.
Dont fait partie le Fou, j'ai oublié de le dire, c'est vrai.
Et oui, voilà. Et donc cette association souhaitait commencer à entamer une réflexion sur le patrimoine vivant. Donc voilà, c'est vraiment la rencontre de ces deux associations-là. Donc de cette rencontre est né un projet expérimental et participatif sur 9 mois, afin de répondre à différents objectifs, donc sensibiliser au patrimoine vivant, l'identifier, le valoriser et développer des outils également pour continuer de valoriser ce patrimoine une fois qu'il a été identifié.
Donc c'était une première pour Bretagne Culture Diversité, il y avait quand même déjà eu des collectages sur d'autres sujets, non?
Oui, voilà, mais à d'autres échelles, sur d'autres territoires, comme par exemple dans le pays centre-ouest de Bretagne, là de 2015 à 2020, donc on était sur près de 70 communes, sur 5 ans, donc c'est un peu une première pour nous sur ce modèle-là.
Et pour les petites cités de caractère, Ludovic, c'était une première, cette collectage, où il y avait eu des bribes déjà?
Non, c'est une première. Tous les patrimoines sont étudiés dans le cadre des petites cités de caractère, donc on fout également, hein, on est sensibilisé à ça, et de plus en plus, on s'éloigne du patrimoine bâti, du patrimoine historique, pour aller vers le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, et donc en particulier le patrimoine culturel immatériel, qu'on préfère nous appeler patrimoine vivant, parce que c'est beaucoup plus parlant à la fois pour les habitants et puis pour les élus. Mais c'est vrai qu'il faut rester, et c'est ce à quoi veille Bretagne Culture Diversité et les brillantes intervenantes qui nous accompagnent, rester dans le cadre défini par l'UNESCO pour bien cerner ce sujet.
Et pour l'expérimentation qui a duré 9 mois, c'était le Fou uniquement ou il y avait d'autres petites cités de caractère qui étaient...
Alors oui, on était deux petites cités de caractère qui étaient un petit peu plus matures, on va dire, sur la notion d'inventaire étendu, et donc il y avait Château-le-Drin dans les Côtes d'Armor, qui nous a accompagnés aussi sur le projet.
On les salue, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais non, peut-être si on a le temps, on pourra en dire un mot. Toujours, c'est Elena, c'est vous qui vous êtes chargée aussi de celui-là.
Exactement, ouais. Oui.
D'accord. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, ce collectage, étape par étape, hein? Quelle était la méthode, déjà?
Alors, donc, le projet, comme vous l'avez dit, s'est tiré sur 9 mois, donc de septembre 2022 à mai 2023, et il s'est découpé en 3 phases. Alors la première phase, c'était celle de l'identification, donc de septembre à décembre 2022. Donc là, on organisait 2 réunions publiques, 2 permanences sur le marché, afin d'identifier le patrimoine vivant de la commune, savoir ce qui fait patrimoine pour les habitantes et les habitants. Ensuite, on a une deuxième phase qui s'est étendue de janvier à avril 2023, qui était celle de l'enquête. Donc là, on a réalisé des entretiens avec des porteurs de patrimoine vivant, mais également des responsables associatifs. On a fait des observations, par exemple, à la fête des jonquilles, ou bien lors d'un cours de Gourenne.
En immersion, fallait y aller, quoi. Fallait être présent.
En immersion. Et donc là, on a l'enquête. Et en parallèle, lors de cette deuxième phase-là, on entame aussi la valorisation. C'est-à-dire que, de manière un peu systématique, on va demander aux gens, est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été menées pour valoriser votre patrimoine? Est-ce que vous pensez à des actions particulières que vous aimeriez faire? Donc voilà, c'est un peu les deux actions en parallèle, enquêter, valoriser. Et là, nous sommes actuellement dans la troisième et dernière phase de ce projet, qui est celui de la restitution et des préconisations. Donc là, pour la restitution, on va le faire de manière publique. Donc vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés jeudi prochain à 18h en mairie.
Après avoir écouté l'émission d'ailleurs, qui est déjà une pré-restitution,
oui,
on va dire.
Complètement, complètement. Où là, on va faire un bilan, présenter un bilan du projet publiquement. Et on va également discuter, échanger pour réfléchir ensemble aux perspectives futures. Donc sur le patrimoine vivant, sur la commune, sur le projet, etc. Et on va également donner des livrables à la commune, un bilan du projet avec des préconisations, ainsi qu'une boîte à outils, un guide de valorisation du patrimoine vivant.
Mais il y a quand même eu des idées de valorisation qui ont été émises par la population, c'est ça en fait, pendant l'enquête, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Alors par la population, par des associations ou des personnes qui portent ce patrimoine vivant-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne maintenant des exemples.
On va y venir après. On va procéder par étapes. Déjà sur ce déroulé d'enquête, ou même de collectage, quelles ont été un peu les difficultés déjà? C'est pas toujours facile, Ludovic.
Non, c'est pas évident, surtout d'appréhender le sujet, de se dire qu'est-ce qu'on va découvrir, au niveau de la commune, au niveau des habitants. C'était un peu le même questionnement. À quoi ça va aboutir? Donc là, on arrive au bout, donc on est content de voir qu'il y a des résultats et d'envisager les perspectives futures, et notamment d'acquérir cette fameuse boîte à outils mystère, mais qui va aider un peu tout le monde à continuer à travailler autour du sujet du patrimoine vivant.
Et quelles ont été les surprises, les surprises bonnes ou mauvaises d'ailleurs, Elena Tataruche, pendant cette expérimentation?
Pour juste rebondir un petit peu sur les difficultés, je dirais que moi personnellement, une forme de frustration peut-être, c'est de ne pas avoir pu tirer tous les fils de tous les éléments des patrimoines vivants identifiés par manque de temps, de moyens humains. Après, c'est aussi une expérimentation, donc elle est perfectible. Et voilà, donc là, c'est un peu une petite frustration personnelle, je dirais. Mais après, beaucoup de belles surprises, ou je dirais presque que des belles surprises de voir la richesse du patrimoine vivant identifié, et comment aussi est-ce que des acteurs ont pu se saisir du projet ou être enthousiastes. Je pense à l'association, par exemple, des Trésors du Fou, voilà, qui était...
Tenzorio Brouwer-Farou, c'est ça?
Exactement, oui, tout à fait.
Oui, c'était bien d'avoir cette association-là. C'est peut-être aussi pour ça que vous aviez choisi Le Fou comme site de collectage. C'était important d'avoir déjà une association qui s'en occupait un peu, non?
Oui, notamment. Après, donc il y a cette association-là vraiment sur le patrimoine, mais aussi d'autres associations, ou même la radio locale également.
Oui, dont on ne citera pas le nom.
C'est un autre trésor.
C'est gentil. Angelina Trappi, vous venez d'Ariège. Alors, c'est intéressant parce que vous avez un recul peut-être. Est-ce que vous aviez déjà fait des collectages comme ça?
Alors, pas forcément. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Après, je suis ravie de pouvoir accompagner Elena aussi sur ça, et notamment durant les restitutions publiques. C'est une matière aussi pour mon travail, vu que je travaille sur les journées européennes du patrimoine, et qu'en parallèle aussi, j'ai mon mémoire de fin d'année, de fin d'études, parce que je suis en dernière année. Donc oui, c'est toujours un plaisir, et puis je suis ravie de voir différentes méthodes, en fait, aussi en fonction de mon stage. Voilà.
Donc le collectage est terminé. Qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce qu'il y a des choses étonnantes qui ont surgi? Ou est-ce que non, quand même, c'était attendu? Alors, Ludovic?
Alors, rétrospectivement, on va dire que non, rien n'est étonnant. mais tout était un petit peu masqué, dissimulé, dans l'inconscient ou subconscient des habitants. Voilà. Mais je pense que non, il n'y a absolument rien d'étonnant. Après, ce qui est difficile, et il faut toujours faire attention à ça, c'est de se dire, est-ce que c'est un patrimoine qui est toujours vivant?
Ben oui.
Donc, est-ce qu'il est encore pratiqué? Est-ce qu'il est transmis? Est-ce qu'il est utilisé? Voilà. Et comment on peut le valoriser un peu plus pour qu'il soit un peu plus connu et partagé, quoi.
Non, juste si vous voulez, pour être... Après, il y a 14 éléments, en fait, qui sont ressortis. Donc, On a un peu classé là en fonction de la convention UNESCO qui a différents domaines. On a les pratiques culinaires. Donc là, par exemple, il y a les savoir-faire, le savoir-faire des crêpes qui est ressorti.
Évidemment.
Du cidre.
Ça, on peut dire que c'est toujours vivant. Hein. Enfin, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant ça.
du pastéo aussi, donc la brioche des gras qui est faite localement. Après, en pratique sportive, on a le gourène. Pour ce qui est des langues, la langue bretonne, les savoir-faire, on a la vannerie, le savoir-faire.
Alors ça, la vannerie, personnellement, moi, ça m'a étonnée. Enfin, je ne suis pas tout à fait faouiste, mais je ne pensais pas qu'il y avait une pratique de vannerie. Et encore maintenant, au fou aussi.
Alors là, on a une jeune vannière dont c'est le métier, qui est professionnelle, installée sur la commune.
Que nous rencontrerons prochainement.
Et oui. moi, en allant traîner à droite à gauche, j'ai aussi découvert qu'il y avait des personnes qui, notamment pour des paniers de pêche, continuaient à faire un peu de vannerie comme ça, alors vraiment spécifique et de manière très personnelle pour leur pratique.
Et c'est quand même de la vannerie classique à base de saule, enfin d'osier, ou est-ce que c'est des... parce qu'on peut, il y a beaucoup de choses qu'on peut tresser en fait. Non
oui, oui, oui. Et donc tout ce qui est, enfin, pas mal de matières végétales à tresser. Là, je pense à la personne en question. Elle avait un peu évolué dans ses pratiques. Et elle avait ajouté un peu de métal, je crois, notamment dans son tressage. Bon, bah ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et voilà, le patrimoine vivant, c'est un patrimoine qui évolue, qui se recrée en permanence. Donc le changement de matériaux peut arriver.
Il y avait aussi des pratiques, si j'ai bonne mémoire. Alors, il y a les fêtes, on en a parlé, la fameuse fête des Jonquilles. Elle existe depuis quand, cette fête? Qu'est-ce qu'on en sait de cette fête?
Alors, la fête des Jonquilles, si je ne me trompe pas, c'est une création d'après-guerre. Au fou, mais également dans d'autres communes, hein, en France, souvent c'est impulsé par les municipalités. Voilà, une fête pour...
Ah ouais, c'est les d'accord. C'est pas des gens comme ça qui se sont dit on va faire. Il y avait pas de comité des fêtes quoi.
Je pense que c'était le comité des fêtes qui avait dû impulser ça hein, et toujours vivant. Mais voilà, donc c'est une création du XXe siècle. Mais
parce que nous avons dans le studio, je ne l'ai pas dit, nous avons Davy Andrasik de Radio Évasion, parce que Radio Évasion a son rôle à jouer et il rencontre des gens qui lui parlent de ce fameux patrimoine. Alors bon, Davy, d'accord. Ok. Alors dis-nous tout sur la fête des Jonquilles.
Bonjour. Moi, je connais pas grand-chose encore sur la fête des Jonquilles. J'ai pas réussi à collecter quelque chose dessus. En revanche, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça existe dans d'autres départements. Et moi, je viens de l'Est de la France. Et à Gérardmer, dans les Vosges, il y a une fête des Jonquilles. Alors, il y avait, parce qu'il n'y a plus autant de Jonquilles qu'avant. Mais avant, on faisait carrément des chars qui étaient décorés avec des Jonquilles.
Alors, celle du Fou, elle a lieu en forêt du Cranou.
Oui.
C'est important, enfin, parce que est-ce qu'il y a encore des Jonquilles en forêt du Cranou? Qu'est-ce que les gens ont dit là-dessus?
Ouais. Non, il y en a toujours et on peut. Alors, la loi dit qu'on peut ramasser une brassée, donc une grosse poignée de Jonquilles par personne par jour. Voilà. Et lors de la fameuse fête des Jonquilles, donc organisée toujours par le comité des fêtes de Rumingole, il y a des bouquets de Jonquilles qui sont vendus, qui sont issus de la forêt.
Oui. Oui, parce que la forêt, elle a un rôle vraiment important dans ce patrimoine vivant du Fou. Elle est vraiment spécifique au Fou. Je pense que Châtelaudrin, je ne sais pas s'il y a une forêt, mais ça doit
être... Non, on ne parle pas de forêt. c'est vrai qu'on est un peu fiers de notre forêt. Il n'y en a pas partout des aussi grandes, des aussi belles, des aussi anciennes.
Surtout en Bretagne.
Et, voilà, surtout en Bretagne et qui ont façonné l'histoire de la ville. On en a parlé plusieurs fois à cette antenne. Sans forêt, pas de port, donc pas de ville.
Oui, parce que le bois donc était exploité et il partait au port du Fou.
Voilà, les deux sont complètement liés. Voilà.
Et il y a la cueillette, donc voilà une pratique, la cueillette des champignons en forêt du Cranou. C'est
mais
ça.
Oui, voilà.
Qu'est-ce que vous avez dit là-dessus? Ouais.
Bah, alors là, ça fait partie des éléments que j'ai pas pu plus creuser que ça, notamment parce qu'on a.
Et tout ça est très secret.
C'est un sujet un peu sensible.
C'est ça, tout à fait. Si on peut savoir quelles sont les espèces de champignons qui sont ramassées, peut-être. Même pas.
Mais on est en train de travailler, là, pour les Journées européennes du patrimoine, à un projet de balade, justement, qui mêle patrimoine naturel et culturel, et donc pratique autour des champignons de cette forêt-là. Donc, je pense qu'on en saura plus à ce moment.
Ouais, parce que c'est vrai que les champignons, c'est la saison haute, c'est l'automne, les Journées du patrimoine sont en septembre, ça collera bien. Quels sont les sujets qu'on peut développer dans ce que vous avez collecté sur lesquels vous avez plus d'éléments qu'on peut un peu détailler.
Par exemple, on peut avoir le pastéo. C'est vrai que c'est revenu à plusieurs reprises et ça fait partie des éléments qu'on a un peu plus creusé. Parce que c'est vrai que le patrimoine culinaire, ça rassemble, mine de rien. C'est vrai que quand il s'agit de boire et de manger, tout le monde est à peu près d'accord.
Alors, On va peut-être rappeler. Alors, le passéo, c'est le gâteau des gras. Alors, j'ai ici un petit son que j'ai déjà fait écouter aux auditrices et auditeurs. Alors, c'est le passéo de Quimère. Alors, on n'est pas tout à fait au fou. On va voir après ce que vous en pensez. On va l'écouter pour voir.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
Le fameux passéo.
Alors, c'est quoi, ça, le passéo ?
Passéo, c'est un gâteau.
2 kilos de farine, 400 grammes de beurre. 7 œufs, 4 entiers et 3 jaunes, et du sel un petit peu aussi, et autrement donc 100 grammes de levure de boulanger.
Et le sucre, on le met quand ?
Le sucre aussi, oui, alors là...
Ça restera un secret.
Ça restera un secret, là, oui.
Et dedans, on mettait toujours quelque chose dans le pastène, donc au singulier le pastène ?
On met donc des pruneaux, des raisins secs et des figues.
À chaque fois, on met tout ça.
On met ça. Pruneaux, raisins secs et figues.
Et on ne met pas des pommes, en fait. Alors maintenant, on met. Mais...
Certains font des pommes, hein, mettent avec de la compote. Hein. Si, c'est ça. Et ceux qui ont de la compote, en principe, on doit les manger plus vite que ceux qui ont des pruneaux et des raisins. Ça se conserve plus longtemps.
Et ça n'existait pas, le pastène à rien ? Enfin, rien juste au sucre ?
Non, je crois pas, non. Il y avait toujours quelque chose à l'intérieur, quand même.
Et c'était quoi le territoire, en gros, du pastène ? C'était à quel endroit exactement qu'on en faisait, qu'on en mangeait ?
Cette partie-ci du Finistère, autour du Faux, oui.
Mais on ne sait pas d'où ça vient, à quand ça remonte et tout ça.
Je ne sais pas, c'est au gras. Hein. Le passéo, c'est le gâteau des gras.
Donc c'est février à peu près, c'est ça ?
Février, voilà, c'est ça. Et disons, autrefois, donc, parce que ça se faisait autrefois quand nous étions jeunes, hein, les parents en faisaient un panier, en fait, et on partageait avec les voisins. On se faisait goûter.
On allait en apporter un chez le voisin et on revenait à la maison avec un autre.
Donc vous faisiez des concours de pastène, en gros, de pastéo.
Non, c'était échange. Échange. Nous, on avait, dans notre village, il y avait 5 maisons. Donc quand on avait fait notre tournée, on était parti avec 5 pastéo et on revenait avec 5 autres. Et c'était rigolo de comparer.
Justement, c'était très différent.
Complètement. Nous, on faisait ma mère faisait des pastéo assez gonflés, mais d'autres avaient... Je ne sais pas s'ils mettaient suffisamment de levure ou quoi. Et ils étaient plats.
Ceux-là, on dirait plutôt des brioches. D'ailleurs, ils sentent la brioche, je trouve.
C'est plus compact que la brioche. Ah oui, quelquefois, même, elles étaient assez dures, même à couper. Quoi.
Ça se gardait longtemps, alors.
Je pense que ça dépendait de la pâte aussi. Quoi. C'est pas tout à fait la cuisson, mais la consistance de la pâte quoi, qu'ils faisaient. Quoi.
Chez nous, ils avaient une forme assez arrondie, comme disait tout à l'heure. Donc elle avait des raplaplas, tout plat et puis dur. Mais on savait, ça vient de chez un tel, ça vient de chez un tel, ça vient de chez un tel. On les reconnaissait.
En fait, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas une recette en fait de pastène. C'était vraiment chacun mettait ce qu'il voulait.
Sûrement qu'il y a une recette de base, mais les composants, c'est peut-être plus ou moins d'œufs. Il y avait différentes couleurs. Beaucoup avaient des pastéo très jaunes, donc ils mettaient beaucoup d'œufs. C'était pas d'ailleurs plus appétissant, hein. Trop jaune, j'aimais pas. Je préférais ceux de ma mère.
Comme d'habitude.
On préfère toujours ceux de sa mère. Alors là, on voit que c'est vraiment un patrimoine vivant, hein, le gâteau des gras. Il est encore, d'ailleurs, les boulangeries s'y mettent, s'y sont mises aussi, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez collecté sur le... Alors là, c'est Pont de Buis, donc c'est une association de Quimère, très exactement. Et vous, au fou, qu'est-ce que...
Alors c'est drôle parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a autant de recettes que de personnes qui en font.
Comme les crêpes,
comme les crêpes. Après, l'enquête est toujours en cours, mais de ce que j'ai pu un peu grappiller à droite à gauche, c'est que il y a une sorte de tradition de pain brioché en Bretagne. Alors, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'elle s'étend, est-ce que même au-delà de la Bretagne, peut-être, mais que ça serait probablement une création plus ou moins du 19e siècle. Si vous voulez, par chez moi, je viens du sud Finistère, vraiment sud-sud, et on a le pain doux, qui est un peu l'équivalent, un peu différent, mais le pain doux, il y a aussi le Queen des gras. Un peu plus haut, voilà, le pastène. Dans le Morbihan, ils ont encore un autre gâteau qui ressemble. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez partagé. Et toujours, voilà, avant le carême, on enrichit son pain.
Et pour perdre quelques kilos, on a le gouren, qui est très vivant au fou, parce qu'on a vraiment une association de gouren. Donc, vous avez assisté à une séance, c'est ça ?
Oui, voilà, j'ai assisté à une séance pour les enfants, parce que depuis le Covid a donné un bon coup quand même à l'association, donc les cours à adultes n'ont plus lieu. Alors il y a un projet de les remettre sur pied, mais donc pour l'instant il y a deux groupes enfants qui continuent d'être donnés.
Donc, bon, c'est l'avenir, les enfants, donc on peut garder espoir.
Oui. Mais oui, c'était très intéressant de voir ces petits-là commencer à apprendre les prises tout doucement et leur rapport au corps, etc. Et l'apprentissage de tout ça.
Et ça fait longtemps que c'est pratiqué au fou, le gourène. Vous avez réussi à savoir si c'était vraiment une tradition
Alors là, on est. Il me semble que l'association a été créée au début des années 2000. Après,
mais sur une base, sans doute, voilà. de gens qui pratiquaient.
Enfin. C'est ça. Et après, bon, la pratique du gourène est plus ancienne. Là, c'est toujours le. Où est-ce qu'on se situe au niveau de l'échelle géographique? C'est-à-dire que le gourène, c'est une pratique plus ancienne qui date d'avant les années 2000, mais plus spécifiquement, son implantation sur la commune est plus récente. Après, on n'a pas pu fouiller un peu plus dans les archives pour voir où ça pouvait remonter.
Ludovic, qu'est-ce qui est envisagé alors comme valorisation? Enfin, quelles ont été les idées émises déjà par les participantes et participants?
Alors, il y a plusieurs pistes. Au niveau des associations, il y a des idées hein, qui viennent directement. On a parlé un peu des journées européennes du patrimoine, mais Gélina en parlera mieux que moi. Mais il y a des pistes autour d'ateliers de culinaires sur le pastéo, par exemple. On a parlé de la balade de cueillette champignons au Granou, ça c'est intéressant. Il pourrait toujours y avoir des expositions autour du patrimoine vivant. On pense notamment à l'association L'œil du photographe, qui a pris le sujet à bras-le-corps et est déjà en train de travailler avec ses adhérents sur une exposition spécifique autour de ça.
Ils vont photographier les patrimoines vivants, c'est
voilà,
ça en gros.
Donc ouais. On verra le résultat, ouais. Est-ce que c'est l'objet même du patrimoine, par exemple le pastéo ou la fabrique du pastéo, pour cet exemple-là. Voilà. Et puis on a aussi au niveau de la commune, et toujours en relation avec les petites cités de caractère, et Radio Évasion, un projet autour de mémoire de ville. L'idée étant de partir d'un collectage de mémoire, comme ça a déjà pu être fait à l'EHPAD du Fou, par exemple, mais creuser les sujets autour du patrimoine vivant. Voilà. Que chacun puisse parler de ce qui fait patrimoine pour lui, ou ce qui faisait patrimoine dans un passé pas si lointain que ça, et puis essayer de rapprocher les différents points de vue sur à la fois les personnes de l'EHPAD ou les anciens, qui ont aussi beaucoup de choses à raconter, mais qui ne sont pas encore là-bas.
C'est Davy qui s'en charge. Davy, tu rencontres combien de personnes, en gros, sur quel sujet? Est-ce qu'il y a des sujets? Oui.
Alors, il y a beaucoup de monde, parce qu'on a déjà commencé à identifier pas mal de personnes avec la mairie. J'en ai déjà rencontré 5. Alors, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui parlent énormément, et quand ils se mettent à parler, ça part dans tous les sens. Alors, il y a un gros travail de tri à faire après. Et on arrive à identifier des trucs, et ce qui est rigolo, c'est qu'un sujet en amène un autre, et puis... Et on arrive à percevoir comme ça certaines thématiques, c'est super intéressant.
Bah, y a notamment de l'histoire économique, enfin, je ne sais pas si on peut parler de patrimoine vivant dans ce cas-là.
Il y a une histoire économique, il y a une histoire industrielle. On parlait l'entreprise, j'ai perdu le nom, Ludovic.
La conserverie?
Non, pas la conserverie, Arnal.
Arnal,
merci. Il y a la scierie de Morvan qui a disparu, donc du coup, on arrive à des fois recouper certaines choses ou certaines... activités commerciales, oui, qui ont disparu. C'est ce qui, pour l'instant, ressort le plus en termes de thématiques, c'est les métiers. Pour l'instant, c'est ça. J'ai pas grand-chose encore sur tout ce qui est festif, fête des jonquilles, tout ça. C'est marrant.
Et Ludovic, on n'a pas encore vraiment parlé d'ailleurs de l'aspect, parce qu'on est un port d'intérêt patrimonial, au fou, il y a un aspect maritime dans ce patrimoine vivant. Hein, c'est... Qu'est-ce qu'il y a comme...
Oui, alors au niveau maritime, on a évoqué tout à l'heure la pêche à pied, donc voilà, c'est un peu comme les champignons, vous n'aurez pas les endroits, mais tout le monde pratique depuis assez longtemps, pas forcément dans le port même du Fou, mais un peu plus loin dans la Ria, cette cueillette maritime. Et puis, ce qui est ressorti aussi, c'est la restauration navale, donc de bateaux. Donc c'est un patrimoine assez ancien, mais qui est pratiqué par peu de monde aujourd'hui, mais finalement par quand même plusieurs associations.
Ah oui, parce qu'à Tenzorio,
il y a un chantier naval.
Au Fou.
Donc la mairie a prêté un espace dans l'ancien centre de secours pour héberger 3 bateaux qui sont en train d'être restaurés, dont l'objet n'est pas de les mettre à l'eau, mais bien de les restaurer et ensuite de les exposer et d'expliquer comment travaille ce patrimoine-là. Il y a Pautret d'Anode qui est en train de restaurer l'Avenne également. Donc ça, c'est dans un espace aussi mis à disposition par la mairie vers les services techniques. Et puis, quelques particuliers dont je fais partie qui aussi restaurent leur bateau.
Alors ça, c'est un patrimoine qui est qui est plus, enfin, qui est vivant, mais qui est aussi matériel pour le coup, quoi. Donc la restitution publique, on va rappeler la date et le lieu. C'est jeudi, c'est ça ?
C'est jeudi 25 mai à 18h.
Ça sera la seule réunion publique ?
Oui, et vous aurez une dégustation de pastéo préparée par Elena.
Oui, donc ça incitera les gens à venir. Et ensuite, prochaine étape, les journées du patrimoine, c'est ça ?
Alors oui, Angelina. En partie du coup, donc on va peut-être un peu expliquer ce que c'est. Donc les journées européennes du patrimoine vont s'inviter du coup sur la commune du Fou. Donc c'est l'occasion aussi de redécouvrir le patrimoine, mais aussi de mettre en avant en fait tous les acteurs qui œuvrent à la reconnaissance, à la sauvegarde et à la valorisation de leur patrimoine. Et cette année, en plus, donc c'est la 40e édition. Ça se passera du samedi 16 septembre au dimanche 17 septembre. Et ce qui tombe bien, c'est que l'édition, c'est sur le patrimoine vivant.
Ah, ben voilà.
Donc ça entre en résonance totalement avec le projet mené par Elena et par Ludovic, notamment sur la commune. Pour ce faire, il y aura différents événements. Donc le premier, ça va être donc un atelier pour les plus gourmands, un atelier pastéo. Pour découvrir un petit peu ce savoir-faire là, avec notamment donc l'association des Trésors du Fou et Stéphanie qui est leur présidente. Donc ce sera sur réservation et ça se passera notamment donc dans la salle d'Agnello à Rumingol. Donc voilà, et c'est ouvert à tous, les plus petits comme les plus grands. Voilà, donc ça va être sympa, je pense.
Mais on y reviendra parce qu'on va faire une émission en fait en septembre pour parler des journées du patrimoine.
Tout à fait. Voilà, donc tout va se préciser aussi petit à petit avec un programme notamment pour faire une petite communication sur ce qui va se passer. Et il y aura aussi donc une ouverture du chantier de restauration, donc notamment avec l'association Pautre-et-Danaude, excusez-moi pour peut-être la prononciation. Et il y aura une ouverture du chantier avec une signalétique, notamment aussi l'association qui sera présente avec des membres qui viendront présenter leur travail. Et aussi, voilà, ça convient à tous. C'est l'objectif d'être un peu aussi, d'avoir un côté assez ludique et ouvert à tous. Voilà.
On va s'arrêter là parce que l'émission arrive déjà à sa fin. Et bien, on va vous remercier et on vous dit donc à septembre. Merci.
Merci
à
beaucoup. Vite,
merci. À bientôt.
Et dans un instant, la deuxième partie de l'EM avec les textiles et les vêtements.